Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Le point.
Bonjour à tous, bienvenue dans le tacle de l'Euro, le podcast du point sur l'Euro. Nous avons donc discuté avec notre président et nous sommes prolongés, nous prolongeons le podcast qui se transforme en podcrash depuis l'élimination contre la Suisse. Et aujourd'hui, notre podcasting, comme Véronique Rabiot, sa mère a insulté son adversaire pour la ceinture orange de karaté ratée. L'excellent Julien Rebucci.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Julien. Est-ce que votre mère était très incitative, invective en tribune ?
Non, elle n'était pas comme Véro quand même, mais bon, elle avait son petit caractère aussi.
Comme Véronique Rabiot, sa mère s'est engueulée avec l'arbitre qui n'a pas accordé un jet de 7 mètres à son fils, le fabuleux Thomas Bourgeois-Muller. Bonjour Thomas.
Bonjour tout le monde.
Pareil.
Petite référence au handball, c'est ça ?
Oui, maman Bourgeois-Muller, elle était calme.
Oui, très calme. Elle n'est pas au match, tout simplement.
D'accord, ok. Bon,
mon père était chiant. Non, je rigole.
On salue le papa qui nous écoute.
Alors, sans écoute.
Et comme Véronique Rabiot, sa mère était subjuguée par ses coups droits liftés étourdissants au tennis et ses lucarnes éblouissantes au foot, le si parfait Adrien Mathieu. Bonjour Adrien.
Quel bel hommage, merci beaucoup Florent.
Alors, tu as lancé un nouveau compte Twitter, puisque... toujours censuré. Ouais.
Toujours censuré, on veut m'empêcher de parler, je le remarque, mais on est obligé de se réinventer.
Voilà, donc le nom de ton compte Twitter
C'est Scipionista tiré du bas, hop.
Ouais, bon, il n'a pas changé trop le...
Oui voilà, je ne change pas une équipe qui gagne.
Alors, petit rappel du concept, parce que rien ne change, malgré notre élimination. Chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, carton rouge ou carton jaune. On fera un petit bilan la semaine prochaine pour savoir qui a pris le plus de cartons. Je ne sais pas pourquoi, bizarrement, je pense que c'est moi, mais alors que j'avais raison. Avant de débuter, on va saluer Julien qui avait tout vu, qui avait tout lu, puisqu'il avait annoncé la qualification de la Suisse. Et tu en es fier ?
Non, pas particulièrement, mais bon... c'est comme ça. J'espère ne pas me tromper jusqu'à la fin.
Oui, parce que toi, tu vois l'Italie, donc...
J'aimerais l'Italie.
Ouais. Donc on est parti, alors à seigneur tout honneur et à tout présentateur, je vais commencer. Donc mon tacle sera contre Véronique Rabiot. Vous savez que depuis mardi 18h, on ne parle plus que de ça. On ne parle plus que d'une embrouille en tribune entre copains de joueurs et la mère d'un autre. Alors je vais faire un petit rappel des faits. Tout a commencé pendant France-Suisse, où les copains de Paul Pogba ont critiqué la prestation d'Adrien Rabiot. Véronique, la mère de ce dernier, n'a pas pu supporter et le ton est monté. Puis au moment du raté de Mbappé, elle a pris à partie les parents du joueur du PSG en expliquant qu'il avait tiré son pénalty avec suffisance. Une belle bonne ambiance dans les tribunes. Alors, l'image de l'équipe de France, si bien réhabilitée grâce à Deschamps, s'est de nouveau dégradée. Et on se demande pourquoi les entourages des joueurs, qui sont de plus en plus néfastes, sont toujours aussi présents. Une Coupe du Monde ou un Euro, c'est une aventure humaine, une aventure de groupe. Or, on peut penser que des adultes qui ont quitté le domicile familial tôt pour vivre de leur passion peuvent supporter d'être loin de leur famille pendant un mois et éviter d'être parasités par tous ces membres. Nous devons donc tacler la FFF qui, pour surprotéger les joueurs, les place dans un cocon, leur passant tout et en invitant les proches à tous les matchs, brisant même la bulle sanitaire. Et si on mettait un coup de Rabiot à tout ça ? Voilà. Silence.
Bravo. C'est bien dit.
C'est... Adrien.
Non, c'est bien dit parce que moi, ça m'a interpellé. J'ai l'impression qu'on était dans une espèce de cour de récré géante. Ton fils sait pas faire une passe, mais t'as vu le tien, il sait pas tirer un penalty. Prenons un peu de la hauteur. Et finalement, je me pose aussi cette question. Qu'est-ce qui est le mieux pour un joueur? Est-ce que c'est d'avoir un entourage familial qui est ton agent, qui te protège? Ou est-ce qu'il faut avoir, on va dire, un requin comme Mino Raiola, qui laisse rien passer? Et au final, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est vraiment peut dire ça, comment le joueur le ressent. Et c'est vrai que pour Adrien Rabiot, on a souvent résumé sa carrière, notamment au coup de colère de sa mère, de Véronique. Mon fils ne veut pas jouer 6, mon fils ne veut pas prolonger au PSG. On a l'impression que voilà, il a jamais su se prendre en main, et pourtant il fait une belle carrière. Mais je trouve que paradoxalement, on tombe quand même beaucoup sur Véronique Rabiot. On en fait un peu un personnage, une espèce de Tati Daniel hystérique. Et je trouve que le raccourci me dérange un petit peu parce que j'ai l'impression que Clan Pogba n'a pas été très malin sur le coup. Donc voilà.
Ça part de deux. Hein. Ça, alors, si on lit la presse.
Ça partirait d'eux. On a pas, vraiment, il y a plusieurs versions et tout. Mais bon, c'est sûr que comme tu le dis, par rapport à l'image de l'équipe de France, voilà, la presse étrangère découvre ça et se dit mais dans quoi est-ce qu'on est tombé?
Oui, ça pose le problème des délégations. Alors, on sait toutefois qu'il n'y a pas eu d'avion affrété par la FFF pour amener la famille et les proches des joueurs, contrairement à d'autres compétitions par le passé. Mais clairement, donc, ils profitent de places qui sont distribuées par la fédération, puisqu'ils sont tous dans la même tribune. Je me demande si aujourd'hui, il ne faudrait peut-être pas revoir ce système de places offertes. Je pense que les joueurs peuvent payer les places de leurs proches sans problème. Je ne vois pas en quoi les papas et les mamans des joueurs seraient dispensés de payer leurs places. Ça nous éviterait peut-être encore une fois d'être ridicules aux yeux du monde.
Oui, et puis surtout, ils peuvent se passer un mois de leur famille, de leurs copains. Enfin, c'est quand même assez ahurissant de voir des adultes qui ont besoin de voir absolument ce cocon familial. On avait vu certains joueurs se plaindre que, contrairement à d'habitude, à cause de la bulle sanitaire, ils ne pouvaient pas voir une ou deux journées après le stage préparatoire leur famille. Enfin, c'est hallucinant. C'est des gens quand même qui ont quitté leur domicile à 12 ans. Hein.
Je vous mettrais quand même un carton jaune, Florent, parce que si jamais on avait eu un joueur de la hargne de Véronique Rabiot au milieu de terrain, on serait peut-être encore en compétition.
Tout à fait.
C'est vrai que Véronique, pour rameuter les troupes, engueuler tout le monde, ça aurait pu faire du bien. Moi, je ne vais pas mettre de carton parce que moi, franchement, cette histoire d'entourage et tout, ça m'a bluffé. Enfin, je me suis dit, en 2021, on est encore là. J'ai l'impression de revoir certains plateaux de poussins quand j'étais là, quand un père engueulait un arbitre et tout. J'ai l'impression qu'on est tombé dans le ridicule. Après, moi, personnellement, que les familles soient là, présentes, ça ne me dérange pas. Je pense que dans l'équipe d'un joueur, ça compte quand même. C'est plus évidemment leur attitude en tribune, se comporter en adulte et ne pas pestiférer au moindre raté.
Mais on sait que les joueurs ne sont pas tous copains. Ils le disent, ils le répètent à longueur de temps. Je vois pas pourquoi les familles seraient amies et pourquoi on est obligé de les mettre tous dans le même carré de tribune. Voilà.
Non mais c'est terrible, ne pas avoir la jugeote de se dire, quand on voit le match, je vais critiquer le joueur alors que sa mère est juste derrière ou devant, c'est quand même ridicule. Quoi.
Ah, ça manque de tact, ça c'est une certitude.
La VAR.
Ah, c'est parfaitement licite. Bon, je n'ai rien à dire.
Parfait. Bon, on va continuer sur l'équipe de France avec Julien. Alors, ton tacle.
Et ça va être un tacle pour l'intégralité de l'équipe de France, que ce soit les joueurs, le staff et la fédération. En fait, je me suis demandé si la défaite contre la Suisse lors de 8e de finale n'était pas finalement la pire défaite de l'histoire de l'équipe de France. Je vais faire simple. Il y a tout dans cette défaite. Il y a le crime commis contre l'équipe par certains joueurs, comme en 1993 pour la qualification en 1994 face à la Bulgarie. Pour faire court, c'est ce qu'avait dit Gérard Rouillet à David Ginola parce qu'il n'avait pas voulu mettre le ballon en sortie de but tout à la fin du match. Et donc, on avait perdu à cause d'un but marqué par Kostadinov. Il y a la suffisance incroyable des joueurs sur leur vis-à-vis de leur niveau, comme on a pu le voir en 2002. Et il y a surtout vraiment cette mauvaise communication vis-à-vis de la presse. Tout le monde va bien, le groupe vit bien, on est tous bien ensemble, conjugué à vraiment la communication après la défaite, qui a encore une fois été pathétique à l'image de ce que tu as dit, Florent, en tribune, et qui là me fait rappeler un nouveau Nice-Na, tout simplement. Donc avec ces trois éléments-là, je me demande si on n'a pas été là face à la pire défaite de l'histoire de l'équipe de France, tout simplement.
Adrien ?
Non, il y a des choses intéressantes dans ce que dit Julien. Pire défaite pour moi, France-Bulgarie 93, France-Pays-Bas 2008 ou France-Mexique 2010, ça reste devant. Je pense que c'est une très très bonne pire cure de rappel d'humilité. On s'est peut-être vu trop beau, on a peut-être, comme tu dis, trop surestimé la vie de groupe et finalement prendre des bons vivants, des mecs qui savent jouer au ping-pong mais qui sont pas bons au foot.
C'est eux qui nous l'ont dit aussi. C'est eux qui nous l'ont dit que ça allait bien.
Ça me pose un problème parce que même moi j'y ai cru, je me suis dit, cette logique de groupe, elle est bien. Mais en même temps, je me suis dit, bon, si dans le groupe, on avait aussi des garçons compétitifs comme Ndombele, Fekir, Théo Hernandez, peut-être qu'on n'en serait pas là, peut-être qu'on aurait eu un peu plus... Tu as dit quelque chose aussi sur le précédent tacle de Florent, c'est que les joueurs, on les oblige pas à être copains. Le vestiaire parfait, ça n'existe pas. Moi, j'ai beaucoup d'exemples en tête où voilà, les joueurs ne s'apprécient pas. Il y a toujours la peur de voir le copain te piquer ta place. J'ai l'impression que dans cette équipe de France, on a peut-être un peu oublié ça. Mais en même temps, bon, est-ce qu'un Kingsley Coman qui fait sa diva parce qu'il veut pas sortir alors qu'il est blessé, et on l'a vu, il est sorti blessé, ça interpelle aussi donc à Deschamps de recadrer tous ses égos assez vite parce que la Coupe du Monde va arriver quand même rapidement.
Et pourquoi ne jamais nous communiquer là-dessus, vraiment, en nous disant que non, tout va bien. Enfin, on a l'impression qu'il faut tout cacher à la presse et finalement aux spectateurs.
Alors, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Cette année, on a vu qu'il y avait les dissensions, notamment sur le penalty gate, où finalement, Deschamps, là, il a eu du mal à maîtriser toute la communication, parce qu'il y a la sortie de Giroud, puis après, il y a Mbappé qui répond à Giroud, puis qui dit oh, « bah, moi, je ne suis pas au courant que Griezmann, il tire les pénaltys ». Donc, il a un peu desserré l'étau.
Oui, bah alors ça vient très tard, parce que je vous rappelle aussi que lorsqu'il a repris Karim Benzema, ce qu'il dit à la presse, c'est qu'il n'y a jamais eu de problème Karim Benzema, il n'a juste pas été pris pendant 5 ans, mais c'était le fruit du hasard, quoi.
Non mais on voit pas un sélectionneur et un capitaine dire en conf de presse non mais nous on peut pas se saquer, on se déteste quoi.
Non mais rappelle-toi, le rendez-vous était secret, on sait même pas s'ils se sont vus, si on sait qu'ils se sont vus et pas téléphonés, mais on a l'impression que c'était plus secret qu'une réunion du G7 quoi. C'était vraiment...
Mais l'équipe de France est plus importante que le G7 et un euro également.
Peut-être.
Non, mais en vrai, c'est plutôt pas mal ce triplé.
Moi, je vibre plus devant les doublés de Karim Benzema que les discours de Justin Trudeau. Hein. C'est juste ça.
Oh là là là, ce podcast devient politique. Non, mais j'ai trouvé, moi, je sais pas ce que pense la VAR, mais ce...
La VAR n'a encore rien à dire, c'est incroyable. Non, je suis entièrement d'accord.
Ces trois dates, trois en un, trois défaites en une.
Bah, surtout que finalement, on a vécu...
un degré moindre quand même. Oui. On peut pas dire c'est le drame de la Bulgarie, on peut pas dire c'est Nice non plus, mais ça rappelle toujours ça, oui. Et ça rappelle des errances passées, c'est vrai.
Mais ça arrive justement après que ce soit passé ces événements-là, donc finalement, on n'a rien appris du passé.
Comme c'est le premier véritable échec de Deschamps, on avait un peu oublié ce que c'était que voilà, la lose en équipe de France, et cette défaite, c'est une vraie bonne défaite qui nous ramène à des temps qu'on aimerait oublier.
En tout cas, Julien n'a pas de carton, et c'est même l'homme du match, l'homme de la saison, parce que on en discutait avant le début du podcast. En septembre, il a écrit un papier, le tacle du lundi. Au revoir et merci, Monsieur Deschamps, oui. Où il disait que Didier Deschamps avait fait avait fini son cycle. Puis après, il nous a dit avant la compétition, comme un air de 2002, nous avons l'oracle autour de la
c'est
table.
Vrai. D'ailleurs, je lance une invitation à Raphaël Raymond s'il veut venir. Discuter au podcast, c'est quand il veut.
C'est une private joke entre les deux. Donc Raphaël, si tu nous écoutes. Adrien, c'est à toi.
Oui, pour mon tacle, en fait, j'ai envie de réhabiliter le football de sélection. J'aimerais vous parler de cette part d'incertitude qui subsiste lors de chaque grand tournoi international. Chaque pronostiqueur en herbe finit par s'en rendre compte. Deviner l'issue finale d'un euro ou d'une coupe du monde est bien plus compliqué que la Ligue des champions ou les traditionnels championnats. Alors oui, il y a toujours des surprises, Lille et Montpellier en Ligue 1, Leicester en Première Ligue et quelques beaux parcours lors de la coupe aux grandes oreilles, Atalanta, Monaco, Leipzig, Ajax, mais pas assez pour aller embêter les vieux mastodontes européens. Et la création de la Super League ne doit pas nous aveugler. Ces gros clubs voulaient garder le monopole et ne pas se mélanger avec la plèbe pendant que l'Euro nous offre de vrais affrontements, la David contre Goliath, la Suisse qui sort la France totalement imprévue, les Pays-Bas ridiculisés par la République tchèque sacrément inattendue, le Danemark aux portes des demi-finales assez surprenant, et l'Ukraine de Shevchenko dans le top 8 européen, un parcours à saluer. Évidemment, la Ligue des Nations a freiné le processus de méritocratie au sein des sélections, mais quand on travaille bien, on peut aller embêter son voisin et son palmarès historique. Longtemps complexé, la Suisse a prouvé que l'impossible était finalement réalisable. À l'heure du fast-food et de la surabondance des matchs, cet euro m'a réconcilié avec ce qui nous anime devant nos écrans de télévision et dans les stades, la glorieuse incertitude du sport.
Là, je crois que tout le monde opine du chef. Il n'y aura pas de carton, Julien.
Non, mais Adrien a 100% raison. Moi, ça me rappelle même, je ferai un autre parallèle, j'aime bien faire des parallèles. Ça me rappelle le football avant Harry Bosman, où en fait on voit finalement des nations fortes. Alors avant, elles se représentaient par des clubs très très forts. J'ai pensé moi Sparta Prague.
Je te vois Bucarest,
Dynamo Kiev pour parler des Ukrainiens aussi. Ah voilà, on voit c'est peut-être des nations qui n'ont pas des grands palmarès, mais l'Ukraine, la République tchèque, le Danemark, ça a toujours été des nations très fortes pour sortir des footballeurs avec du très beau jeu. Et c'est finalement un demi-hasard. C'est une demi-surprise. C'est une demi-surprise parce que, bon, bah, y a des favoris, toutes les équipes du groupe de la mort qui se sont fait sortir, on l'a vu. Mais il n'y a pas non plus de petits poussets dans ces huitièmes de finale. Toutes ces équipes ont quand même une histoire, vraiment. À part peut-être la Suisse, où il faut quand même remonter le temps assez loin pour voir...
Double blague, remonter le temps, l'horlogerie, le temps, le journal, formidable. Il est très très bon. Ouais.
Même quand on ne fait pas exprès.
Il est épatant, l'épatant, Julien Rebucci. Ouais. Et donc, bon, moi je suis entièrement d'accord avec toi, Adrien, avec une petite différence, c'est que le problème, c'est qu'on n'a plus d'identification des nations. Chaque nation joue un peu de la même façon et on n'a plus, comme avant, le bloc de l'Est qui joue d'une certaine façon, l'Italie qui joue d'une autre façon. C'est un peu uniformisé et on a un problème aussi, mais c'est le cas en plus en France, de joueurs qui ne jouent plus dans leur championnat. Donc il n'y a plus tellement une identité de jeu. Ce serait peut-être le seul bémol que j'apporterais à ton tacle, mais qui est parfait.
Non, t'as raison, c'est vrai qu'il y a des équipes qui cherchent à avoir le même style. On a eu, beaucoup ont voulu copier l'Espagne de 2010 dans sa possession. Et mine de rien, je trouve que dans l'évolution des systèmes, on en a parlé, hein, déjà la défense à 3 et tout, je crois que plus de la moitié des équipes de 7 euros le pratiquaient. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes dans le jeu. Et bon, je le dirais, il y a quand même 29 buts lors de ces huitièmes de finale. C'est un spectacle auquel on pouvait pas s'attendre.
Non, formidable, les huitièmes ont été exceptionnels.
Et oui, il n'y a plus de petites équipes, monsieur. C'est facile à dire, mais c'est assez vrai, mine de rien. Le football s'uniformise grâce au club, en fait. Et chaque pays arrive à avoir des joueurs quand même de bon niveau. Et mine de rien, on arrive à avoir un championnat d'Europe à 24, qui est quand même de très bonne facture.
C'est le triomphe de Michel Platini.
Oui.
Alors, je trouve que son Euro à 24 finalement est une bonne idée, mais je reste sceptique à propos de cet Euro étalé sur 10 pays et surtout la différence de traitement entre une Angleterre qui va faire 6 matchs sur 7 à Wembley et la Suisse qui a déjà fait 14 000 km.
Et puis là, il y a déjà les cas de Covid qui sont en train de monter, les clusters Euro comme on les appelle.
Là,
en Écosse aussi,
et
je crois que j'ai
vu. Angleterre-Écosse, ouais, tout à fait. Eh ben, nous avons bien taclé. On est presque tous d'accord, c'est presque décevant.
Ça manque presque de mauvaise foi aujourd'hui, je trouve.
Mais il faut inviter Olivier Perrou, parce que quand on n'a pas de mauvaise foi, il nous faut un footix. Olivier, si tu nous écoutes, on a besoin de toi.
On verra si nous a écouté.
Le jingle.
Deux minutes de bonheur en plus.
Et c'est le moment où, normalement, Julien Rebucci brille. Italie-Belgique, ton prono.
Alors, c'est un prono qui est compliqué à faire sans connaître les formations de départ des deux équipes. Il y a trois inconnus, De Bruyne, Verratti et Hazard. Vous me prenez un peu de cours. Moi-même, je ne sais pas. J'ai envie d'une qualification de l'Italie, parce que je trouve que c'est l'équipe qui produit le plus beau jeu. Mais je pense que ça va être quand même très très compliqué. Donc je miserais plus sur une qualification de la Belgique.
On sent qu'il a fait son gros coup contre la Suisse, donc là il est plus prudent.
Il a un peu la pression, il a peur.
Thomas Strasbourgeois-Müller.
Moi je veux dire l'Italie est sans aucun doute.
Oh là là, Adrien.
Je me demande vraiment, parce que c'est l'inconnu, c'est l'Italie face à vraiment un gros, cette équipe qui a une série incroyable d'invincibilité. Et je crois quand même que la Belgique va assumer son statut de favori dans ce tournoi. Ça va être compliqué, mais je vois bien la Belgique l'emporter.
Alors moi qui me suis rehaussé avec mon premier grand prono dans mon petit prono où j'ai le score exact sur Suède-Ukraine, donc là j'ai plein de confiance, je vais vous donner le score. 2-1 après prolongation pour l'Italie.
Il y a un précédent en 2012 où la Belgique était arrivée très sûre d'elle-même face à l'Italie. Oui. C'est pas très bien passé.
2016, non ? C'était le match de groupe, non ? C'est pas celui-là ?
Oui, 2016.
Oh là, la faute ! Oh, l'erreur de stat.
Il n'y a pas eu en 2012, en effet. C'était Allemagne et Angleterre.
Bon, voilà. On se donnera rendez-vous lundi, puisque nous débrieferons les quarts et on se projettera sur les demi. Et en attendant, on vous souhaite une excellente journée. Et vive l'Euro !
Oui, profitez bien de ces cartes. Allez, les bleus quand même, ça reste. Ah oui.
Est-ce qu'il y a. Allez, les bleus, allez, l'Italie. L'Italie joue en bleu.
Allez, les bleus, les vrais.
À bientôt.
Au revoir.
Le point.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.